Europe 1, 13h, 14h, les carnets du monde. Sophie Larmoyer.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus. On va feuilleter ensemble les carnets du monde, des carnets qui nous feront sillonner une planète bien fragile. C'est un peu contre-intuitif avec les températures de ces derniers jours chez nous, mais sachez que ce mois de novembre est parmi les plus chauds jamais enregistrés dans le monde. Nos dirigeants, les scientifiques et les ONG sont réunis à Madrid pour en parler, c'est la COP25. Et de notre côté, on vous propose aujourd'hui 4 grands reportages pour observer la situation. 3 d'entre eux nous plongent dans des environnements naturels exceptionnels. D'abord Yellowstone aux États-Unis, le plus ancien parc naturel au monde. Un bijou de biodiversité, formidable terrain d'étude pour les scientifiques qui constatent aussi l'étendue des dégâts provoqués par le réchauffement climatique. Nous irons aussi dans 2 forêts menacées par la pression des promoteurs et l'industrie forestière. Celle d'Aray en Inde, en bordure de Bombay. Les citoyens y ont remporté une bataille cette semaine face à un projet de métro qui devait arriver dans la forêt. Et puis la magnifique biosphère de Białowieża en Pologne, la dernière forêt primaire d'Europe non exploitée par l'homme et où vivent notamment les derniers bisons sauvages d'Europe. Et puis on sera également au Sénégal, à Saint-Louis, dans le nord du pays, au bord de l'eau. L'océan qui gagne du terrain et chasse les populations qui vivaient près des rives. On va rencontrer des réfugiés climatiques. Nicolas Caro nous emmènera dans le Grand Nord, sur la banquise, observer les ours blancs grâce à un très beau livre de photos. Enfin, Joseph a été inspiré par sa rencontre il y a quelques jours avec un ermite. Les carnets du monde sont ouverts. Direction les États-Unis.
Les carnets du monde sur Europe 1. Sophie Larmoyer.
Time for action, il est temps d'agir, c'est le mot d'ordre de ces 2 semaines de réunion à Madrid, enfin plus qu'une maintenant. L'enjeu, c'est de réussir à contenir le réchauffement climatique sous 1,5 degré, mais pour ça, comme on a tardé, il va falloir faire beaucoup plus que prévu, c'est tout l'enjeu de cette COP25, parce qu'on le constate tous les jours, les records de chaleur, la multiplication des catastrophes météo, la fonte des glaces, le déclin de la nature et les conséquences pour les habitants de la planète, ce sont autant de preuves de l'impact dévastateur des activités humaines sur la planète. L'effet papillon du réchauffement, on va d'abord le constater ici dans les carnets sur la biodiversité, avec Xavier Yvon, notre correspondant aux États-Unis. Bonjour Xavier.
Bonjour Sophie, bonjour à tous.
Vous êtes allé passer un peu de temps à Yellowstone, qui a été le premier parc national au monde créé en 1872. Il est à cheval sur 3 états de l'ouest du pays. C'est un sanctuaire de la vie sauvage depuis des milliers d'années, un site classé au patrimoine mondial protégé par l'UNESCO. D'abord, entre nous, Xavier, quelle chance d'y être allé. Faites-nous voyager un peu avec vous.
Oui, c'est vrai que visiter Yellowstone, c'est comme plonger dans une carte postale de l'Amérique sauvage. Mmh. Alors, je vais vous faire monter avec moi dans la voiture de Nathan Varley. Il est né, pour ainsi dire, à Yellowstone. Il y a grandi et ça fait 20 ans qu'il y travaille comme guide.
Alors, nous venons juste de passer par l'entrée nord du parc Yellowstone. Là, nous sommes en train de longer la rivière de Gardner. Et là, on voit un élan qui semble très mal en point. Je ne sais pas trop ce qui lui est arrivé. Tu as vu cet élan là-bas? On va s'arrêter pour voir de plus près.
Alors, on s'est arrêté et on a vu des coyotes tourner autour de cet élan blessé. Un peu plus loin, j'ai vu aussi à la jumelle d'autres coyotes qui, eux, se disputaient une carcasse avec des loups. Et puis, il y avait aussi, au détour d'un virage, une horde de dizaines de bisons en train de paître dans un paysage de collines et de montagnes enneigées. C'est vraiment un endroit majestueux.
Ouais, j'imagine. Bon, vous n'y étiez pas pour faire du tourisme, Xavier, mais pour nous faire comprendre justement le réchauffement climatique. Pourquoi là, à Yellowstone?
Bah parce que Yellowstone, c'est un endroit tellement préservé que c'est une machine à remonter dans le temps pour les scientifiques. Pour Cathy Whitlock, par exemple, ça fait 40 ans qu'elle fait des recherches dans ce sanctuaire de la biodiversité. Elle creuse la boue des lacs pour récupérer des sédiments et elle les rapporte ensuite dans son laboratoire de l'Université du Montana où elle les analyse. Grâce à ça, elle connaît le climat de Yellowstone sur les 50 000 dernières années. Écoutez.
Ces sédiments nous disent, sur la couche tout en haut, ce qui se passe aujourd'hui. Et plus on descend dans les couches, plus on remonte dans le temps jusqu'à la fin de l'âge de glace. Couche par couche, nous regardons le pollen nous parle des plantes, les plantes nous parlent de la végétation et la végétation nous parle du climat. Donc nous utilisons les traces de pollen pour savoir quels étaient les climats dans le passé. On a constaté qu'il y avait eu un réchauffement spectaculaire à la fin de l'âge de glace. Yellowstone s'est réchauffé de 4 degrés Celsius, mais ça a pris plusieurs milliers d'années. Et ce qu'on voit maintenant, c'est le même réchauffement, mais en dizaines d'années. C'est du jamais vu. Ça donne le diagnostic de ce qui se passe partout sur la planète.
Et Yellowstone a pris 1 degré depuis 1948.
Waouh, c'est fascinant et effrayant. Et ça, Xavier, c'est ce qu'on voit dans les statistiques des scientifiques, mais à l'œil nu sur place, est-ce que le réchauffement se voit ?
Alors oui, mais pour un œil exercé, celui de Nathan, notre guide par exemple, on remonte en voiture avec lui. Mmh. Premier stop, Phantom Lake, qui porte bien son nom.
L'endroit où nous sommes était sous l'eau dans les années 70. Quand j'ai grandi, il y avait beaucoup d'eau, c'était un lac, à tel point que les gens venaient pêcher ici. Mais maintenant, chaque année, il s'assèche pendant l'été et devient ce bassin rempli d'herbe. Le gros changement, c'est que je me souviens qu'en Phantom Lake ne s'asséchait jamais.
Et ce n'est pas le seul lac du parc qui manque d'eau. Un peu plus loin, Nathan désigne une autre étendue herbeuse où il n'emmène plus ses groupes de touristes. Et voilà pourquoi.
Le lac de l'île flottante était l'un de mes arrêts préférés à cause de la très grande variété d'oiseaux qu'on pouvait y voir. Les nids au printemps, les jeunes en été, il y avait une douzaine d'espèces différentes. Maintenant, on en a juste 4 ou 5. Nos cygnes, par exemple, les cygnes trompettes natifs du Yellowstone. On avait des dizaines de couples en train de couver sur les petits lacs et les mares. Maintenant, il en reste juste une poignée.
Et cette sécheresse qu'on constate, ça favorise les incendies l'été. Nathan appelle même ça la 5e saison de l'année, quand les feux remplissent l'air d'une odeur de fumée pendant des semaines. Et ces incendies favorisent l'émergence de plantes invasives qui repoussent plus vite que le reste. Nouveau stop, cette fois c'est Mike Terzek, un ami biologiste de Nathan, qui se penche pour nous montrer une mauvaise herbe qu'on appelle ici cheatgrass et qui se répand très vite avec le réchauffement.
Cette plante tourne rouge-brun en début de saison. Et grâce à ça, vous pouvez voir jusqu'où elle monte sur les collines. Et chaque année, on le constate, cette vague rouge monte de plus en plus haut. Et elle colonise d'autres zones du parc où on ne la voyait pas avant. C'est très inquiétant. Si cette herbe envahit la partie nord que nous venons de traverser, là où les animaux vivent l'hiver, ça fait beaucoup de dégâts dans l'écosystème parce que c'est une espèce mauvaise à manger et mauvaise pour la terre. S'il y a une végétation moins nourrissante, ça veut dire moins d'élan, moins d'herbivores, donc moins de prédateurs comme les loups, ça ferait un effet domino.
Et Nathan, lui, observe déjà, par exemple, depuis plusieurs années, que les écureuils des plaines disparaissent de plus en plus tôt pour hiberner. Tout ça parce qu'ils ne trouvent plus assez à manger à la fin de l'été. Mais la principale victime du réchauffement à Yellowstone, on la trouve à 3000 mètres d'altitude, c'est la forêt de pins à écorce blanche. Elle a été détruite à 80% ces dernières années.
Et qu'est-ce qu'il a détruite ? Que s'est-il passé ?
Bien avant, le froid empêchait un insecte tueur d'arbres d'atteindre ces pins protégés par l'altitude. Mais avec le réchauffement, ces parasites ont survécu à l'hiver et ils ont pu s'attaquer à la forêt. Ça a été donc dévastateur et très pénible à observer pour Jesse Morgan, qui étudie ces pins à écorce blanche depuis des dizaines d'années.
Vous rentrez dans ce paysage étrange et gris d'arbres morts toujours debout. Ce qui était une forêt verte et vivante avec des écureuils, des oiseaux, des grizzlies, est devenu calme comme un cimetière. Une forêt fantôme.
Ces pins à écorce blanche, ce sont des arbres qui peuvent vivre 1000 ans. C'est une espèce fondatrice de l'écosystème dans ce paysage de granit. Ces pommes de pin nourrissent toute la faune, donc les grizzlies, qui maintenant sont obligés de descendre de la montagne avec un plus grand risque de rencontrer du bétail, des hommes et donc des problèmes. Ces pins permettaient aussi à la terre d'être plus fertile. Et puis, ils avaient aussi un rôle essentiel pour l'alimentation en eau de la région.
Most of the water in the West.
Dans l'ouest, l'eau provient en majorité de la neige et elle est relâchée lentement à mesure que la neige fond à partir du printemps. C'est l'eau qui irrigue nos champs, c'est l'eau que nous buvons. Et l'ombre créée par cette forêt de haute altitude est très importante. Elle permet de maintenir un réservoir. Grâce à l'effet de cette ombre, la neige fond lentement et relâche un flux constant d'eau. Et ce, même pendant l'été. Mais si vous enlevez ces arbres, la neige fond beaucoup plus vite. Vous avez donc un flux d'eau plus faible avec des conséquences dévastatrices.
Ouais, ce sont des conséquences en cascade et un constat alarmant, Xavier. Est-ce qu'il y a des solutions ?
Alors il y en a une, et tous mes interlocuteurs ont insisté, il faut stopper le réchauffement en réduisant nos émissions de carbone. Et oui, tout ce qu'ils décrivent comme scénario, tout ce qu'on a développé, c'est ça, c'est si rien ne change. Donc il y a urgence à agir, mais si on continue comme ça, en effet, Yellowstone ressemblera de plus en plus à un désert. Il faudra faire des choix, on ne pourra pas sauver toutes les espèces. Dans d'autres parcs nationaux américains, on envisage même de relocaliser certains animaux et certaines plantes pour s'adapter au changement climatique.
Tout se tient et tout souffre en cascade. C'est très édifiant et clair à l'échelle d'un grand parc national comme Yellowstone. Merci beaucoup, Xavier. À très bientôt.
De rien, à bientôt.
On poursuit notre exploration des effets du réchauffement sur les humains, cette fois en file au Sénégal, dans un instant.
Europe 1, 13h-14h, les carnets du monde.
Europe 1, les carnets du monde.
En pleine réunion de la COP25 qui se tient à Madrid, les carnets du monde observent certaines des conséquences du réchauffement climatique. Deuxième étape, après l'impact sur la biodiversité dans le parc national de Yellowstone, nous voici au Sénégal, Sophie Larmoyer.
Allons voir maintenant comment les hommes sont directement affectés par ces changements. Les scientifiques ont montré que l'élévation du niveau des océans est inéluctable et que ça va même arriver plus vite que prévu. Et en fait, ça arrive déjà parmi ceux qu'on appelle de façon générique les migrants. Il y a des hommes, des femmes, des enfants qui fuient la misère, d'autres qui fuient la guerre. Et puis il y a aussi des réfugiés climatiques victimes du dérèglement de notre planète. Écoutez ce reportage de Jean-Sébastien Soldaini. Il est allé rencontrer des gens repoussés par l'océan au nord du Sénégal vers la belle ville de Saint-Louis.
Depuis 3 ans, les vagues balaient inlassablement les débris de la maison d'Abdou Aziz. À 2 pas du marché aux poissons de Saint-Louis, le rivage déroule une série de bâtiments en ruine sur plusieurs centaines de mètres, comme un tsunami qui se serait arrêté net. Un paysage que ce pêcheur de 63 ans n'a pas toujours connu ainsi.
Lorsque je suis arrivé ici, il y a plus de 30 ans, le rivage était à près de 300 mètres de ma maison. Et puis d'année en année, nous avons vu la mer grignoter le sable. 2 mètres, puis 2 mètres, puis 3 mètres, parfois 10 ou 15 mètres. Et cet océan continue d'avancer, rien ne semble pouvoir l'arrêter. Il se bat comme le ferait un guerrier contre nous. Et si ça continue, il va dépasser la route dans quelques années.
Lorsqu'il arpente ce qui est désormais une mince plage jonchée de débris de béton, il reconnaît ne pas avoir pris la mesure du phénomène, ne pas avoir cru au réchauffement climatique qui engloutirait une partie de son quartier. Ce n'est qu'au moment où la digue qui protégeait les habitations a lâché qu'il a compris. Il s'est alors préparé. L'océan a tout pris en 2 jours. Et c'est avec une échelle qu'il s'est enfui, en voyant les vagues entrer chez lui, échapper par le toit de la maison voisine un jour de grande marée. Depuis, il vit dans un camp avec ses voisins qui ont eux aussi tout perdu. Il se décrit comme un réfugié climatique et plus encore.
Nous sommes des victimes, car la vie que nous menions n'est pas du tout la même que celle que nous avons maintenant. Nous n'avons pas toujours l'électricité, même pas de quoi faire tourner un ventilo en cas de forte chaleur, pas de quoi faire tourner le congélateur et conserver quelques poissons. Pendant la saison des pluies, c'est encore pire. En cas de tempête, les bâches qui nous protègent s'envolent. Je vis dans un monde désastreux. À tout cela s'ajoute la distance. J'habitais à 50 mètres de mon lieu de travail. Désormais, je suis à 18
kilomètres. 18 km pour aller travailler, tout devient plus compliqué. Certains matins, il n'a personne pour le conduire jusqu'au marché aux poissons. Ses petits-enfants ne vont plus à l'école, trop loin, trop cher pour payer le transport. Ils vivent à 12 dans 2 chambres. Mais le quotidien se déroule dans une petite cour en plein air, au milieu de quelques chèvres. Son épouse Kumba ne voit pas comment leur situation peut changer.
Nous ne retournerons jamais là-bas. L'État nous interdit d'y retourner. Alors on attend. Certaines personnes qui étaient dans le même camp que nous ont été déplacées ailleurs. Ils habitent dans de grandes tentes. Leur situation est un peu meilleure, même si c'est temporaire. Nous, on aimerait bien avoir une nouvelle maison.
Avec ces bouleversements, l'économie locale souffre. Les pêcheurs sont à la peine. Les surfaces agricoles se réduisent. Les jeunes hommes ne trouvent pas de travail. Badera, lui, enchaîne les petits boulots depuis que sa maison a été emportée. Rien de stable, pas de quoi le rassurer ni éteindre ses envies d'ailleurs.
Je veux aller parce qu'il y a le danger de l'eau qui monte. Mon objectif, c'est d'aller en Europe pour aller faire du travail là-bas, gagner sa vie après, pour reconstruire cette maison. Même si demain on me réveille sur mon lit pour me dire « top, c'est parti », je vais dire oui. Cette situation nous bouleverse. Ça nous bouleverse complètement.
Bouleversé au point d'être prêt à sauter dans la première pirogue qui prendrait la direction des Canaries, prêt à travailler en Espagne pour renvoyer à la famille restée sur place l'argent qui permettrait de reconstruire. Un chemin qu'a pris le fils d'Abdou qui constate que le lien se distend avec le jeune migrant.
Nous avons très peu de nouvelles depuis 3 ans. Il ne revient pas ici parce qu'il n'y a pas de travail, mais aussi parce que notre situation ne lui fait pas envie. Il sait que nous n'avons plus de maison. Il n'a aucune envie de venir vivre dans un camp de réfugiés et sous une tente.
L'Espagne apparaît comme l'Eldorado pour ces jeunes Sénégalais bercés par les histoires de ceux qui ont déjà fui le pays depuis une dizaine d'années. Plus ils voient la situation se dégrader, plus les envies de départ reviennent. Fuir l'eau qui monte pour gagner la région de Barcelone. Les Sénégalais ont une expression pour ça. Le Barça ou la Barçar, le club de foot de Barcelone ou la mort. Gandiol, Jean-Sébastien Soldaini, Europe 1.
Voilà, et sur la même côte, tout près de là, au large de la Mauritanie, plus de 60 migrants sont morts mercredi dans le naufrage de leur pirogue à moteur. C'est le pire naufrage de l'année sur cette route longeant la côte atlantique. Jean-Sébastien Soldaini est avec nous de retour de cette grande tournée climatique. Bonjour.
Bonjour Sophie, bonjour à tous.
Cette montée des eaux, évidemment, elle ne concerne pas que l'ouest de l'Afrique.
Non, il y a des zones bien connues où des populations ont déjà été évacuées. L'urgence absolue, c'est dans les îles, certaines îles du Pacifique, celles qui se présentent sous forme d'atolls très peu élevés. Il y a parfois moins d'un mètre au-dessus du niveau de la mer, c'est Vanuatu, les îles Salomon. Ce sont des chapelets d'îlots dont certains ont même déjà été évacués. Plus généralement, les zones côtières de l'Asie du Sud-Est sont aussi sous surveillance. Les scientifiques font des modèles de cartes en fonction des différents scénarios qui sont plus ou moins pessimistes. Et dans le pire des cas, le Bangladesh ou le Cambodge verraient un tiers de leur territoire englouti entre 2050 et 2100. Ça s'approche, c'est demain. Au Vietnam, il y a un programme qui vise à déplacer des villages entiers. Et au Fidji, ce sont les autorités des îles voisines de Kiribati qui ont déjà acheté des terrains 20 km², figurez-vous, au cas où leur territoire viendrait à subir une brusque montée des eaux. Vous avez certains Kiribatiens qui seraient même déjà prêts à partir. Et quand je dis voisine, c'est tout relatif là-bas. C'est quand même plus de 2000 km de distance. C'est un énorme déménagement. C'est dire ce que ces populations sont prêtes à faire pour fuir la montée des eaux.
Un déracinement, en fait. Est-ce qu'on a idée, Jean-Sébastien, du nombre de personnes menacées ?
Alors, il y aurait environ 25 millions de déplacés climatiques chaque année. Le GIEC a rendu un rapport tout récemment sur la question. C'était en septembre et c'était même le premier rapport de ce groupe d'études sur le climat consacré aux océans. Ce rapport considère qu'il y a aujourd'hui 110 millions de personnes qui vivent directement sous la menace d'une grande marée. Et si on prend le scénario optimiste, tout à l'heure je vous parlais du scénario pessimiste, si on est un peu plus optimiste, c'est-à-dire avec un scénario qui prévoit une hausse du niveau des océans de 40 cm d'ici 2100, c'est quand même considérable, il faudra compter sur 280 millions de déplacés dans le monde. Ce scénario pessimiste table, lui, sur plus de 500 millions. Et si on suit cette même direction catastrophe, on va dire, il ne faut pas penser que seuls les pays pauvres des zones tropicales sont concernés. Des modèles vont même jusqu'à inclure Londres ou Shanghai sur la liste des villes menacées par de fortes inondations et des inondations qui deviendraient récurrentes.
Et on pense aussi, tout près de chez nous, aux Pays-Bas, dont un quart du territoire est d'ores et déjà sous le niveau de la mer. Merci beaucoup Jean-Sébastien pour cet éclairage sur les réfugiés climatiques, l'un des énormes enjeux du réchauffement dans les décennies à venir. À bientôt.
Merci Sophie, à bientôt.
Europe 1, les carnets du monde.
Il est 13h22, Sophie Larmoyer, c'est l'heure à présent d'un livre dans le monde. Un livre dans le monde, c'est une autre manière de décrypter ce qui se passe sur notre planète à travers les livres, grâce à Nicolas Carreau qui nous a rejoint.
Bonjour Nicolas.
Bonjour Sophie.
On parlait des réfugiés climatiques à l'instant avec Jean-Sébastien Soldaini, victime de la montée du niveau des océans. Il y en a d'autres qui sont directement impactés. Ce sont les animaux qui vivent sur ces banquises qui fondent à vitesse grand V. Le livre que vous avez apporté leur est consacré.
Ben oui, je me suis dit, quitte à avoir froid, autant aller faire un tour sur la banquise et bien accompagner si possible. En l'occurrence, nous partons avec Michel Ravicki, photographe. Il sillonne les régions polaires, Antarctique, Sibérie, Alaska, à la recherche des ours polaires. Et regardez-moi ça, le livre s'appelle Nanuk, le grand livre de l'ours polaire chez Albin Michel, préface d'Hubert Reeves,
s'il vous plaît.
Mais surtout grand format, dans un coffret transparent. La couverture, c'est du tissu imprimé. C'est ce qu'on appelle un beau livre. Beau livre, c'est une catégorie de l'édition. Mais là, on peut dire que c'est un beau livre.
C'est vrai, je confirme. Et consacré aux ours polaires, donc.
Absolument. Nanook, c'est l'ours en langue inuite. Il y a très peu de texte, quasiment que des photos. Mais lesquelles, regardez ça, c'est d'une beauté. Un ours immergé dans l'eau, le même qui s'ébroue un peu plus loin. Michel Ravicky capte les mouvements et les couleurs et les blancs, les différentes nuances de blanc. Évidemment, c'est pas très radiophonique, mais imaginez une ours avec deux oursons, tous blancs donc, en train de jouer sur la neige, blanche aussi évidemment, mais il y a des dizaines de nuances de couleurs, des reflets dorés, un peu des ombres, avec une luminosité que seuls les paysages de froid peuvent rendre. Là, il y a un ours qui court, c'est présenté en vignette, en décomposant les mouvements de sa course. Un ours sur un rocher, dans la verdure, quand la glace a fondu, que des ours polaires, et soudain, un morse. Il est tellement beau et stoïque qu'on dirait un dessin.
Il passe sa vie dans le froid polaire, Michel Ravicky.
Oui, il a une passion du froid. Moi qui suis plutôt frileux, je lui ai demandé pourquoi.
Alors ça remonte à loin. En fait, à 10 ans, mes parents m'ont emmené à l'Aiguille du Midi, dans la vallée de Chamonix. Et ça a été une surprise, un premier choc thermique, émotionnel. Je ne savais pas bien pourquoi, mais j'ai pris la glace dans mes bras et j'ai trouvé ça beau. J'avais 10 ans, j'avais déjà un petit appareil photo... un Kodak Star Flash Brownie, une paire de jumelles, et je me régalais d'être dans la neige, à attraper cette glace, sans fermer les yeux. Je trouvais ça bon. Je ne savais pas pourquoi. C'est venu bien après.
Et c'est en explorant le froid qu'il a rencontré les ours, j'imagine.
C'est ça, c'était lors d'un voyage au Canada, deuxième révélation.
C'était ma première rencontre avec Nanook, et je les ai vus en train de parcourir la toundra, en attendant que la glace se forme, donc de rôder... de se reposer, de jouer, de chercher à grignoter. Et ça a été là un autre choc émotionnel quand j'ai découvert la force, la puissance de cet animal, voilà, ce mythe que je rêvais de rencontrer photographiquement, bien sûr, parce qu'il y a une distance évidemment respectée. Et depuis, voilà, depuis 92, j'ai effectué 42 voyages dans le froid, dont 16 dédiés à l'ours polaire.
Pas mal. Il n'a jamais eu peur ?
Pratiquement jamais, m'a-t-il dit, tout simplement parce qu'il les connaît bien et il sait qu'il faut respecter la distance. Il sait leur dangerosité éventuelle. La crainte, c'est une forme de respect aussi quand il s'agit de la nature.
Avec le réchauffement climatique, les ours sont en danger ?
Pas pour l'instant, en fait.
Ah bon ?
Michel Ravicky explique que les ours se portent bien. Les populations ne baissent pas. En revanche, il sait aussi qu'ils vont être en danger très bientôt avec ce qui s'annonce, la disparition de la banquise. L'ours a besoin de la glace pour chasser, même si l'ours est hyper adaptatif. Il est un peu devenu un symbole.
Il représente en même temps la crainte pour les années futures, pour les décennies qui viennent, de la disparition de la banquise et donc de problèmes effectifs pour que l'ours trouve sa nourriture. Même si c'est un animal opportuniste qui s'adapte, qui trouve des solutions. J'ai eu l'occasion de le photographier en train d'attraper un canard au vol au Canada il y a un an, en été. Et de le voir se poser sur des rochers à attendre que des belugas, un banc de belugas, un petit cétacé, passe à proximité et que, une fois sur X, il arrive à en attraper un en sautant dans l'eau.
Et on le voit sauter de glaçon en glaçon dans le livre, c'est plutôt impressionnant. Nanook, donc, le grand livre de l'ours polaire, c'est chez Albin Michel. Merci beaucoup, Nicolas.
Merci,
c'est
Sophie.
Vraiment un très joli voyage sur la banquise.
Beau cadeau pour Noël.
À tout à l'heure, vous viendrez nous dire ce que vous nous proposez dans La Voix et Livre.
Ça marche.
Et après la banquise, la forêt. Dans quelques instants, on file en Pologne, puis en Inde, découvrir des endroits magnifiques et très convoités.
Europe 1, 13h, 14h, les carnets du monde.
Europe 1, les carnets du monde.
Il est 13h28 et on va continuer à parler du réchauffement climatique et des conséquences en cascade qu'il provoque. C'est la suite du vaste tour d'horizon des carnets du monde aujourd'hui, alors que se déroule la COP25 à Madrid. Sophie Larmoyer, c'est maintenant en forêt que vous nous emmenez.
Le phénomène est bien identifié par la science. Les forêts, comme les océans d'ailleurs, produisent le dioxygène de l'air et sont aussi des puits biologiques à dioxyde de carbone grâce à la photosynthèse. Ce sont ces poumons verts de la planète qu'on évoque maintenant ensemble, avec un invité de marque, un grand botaniste qui est en ligne avec nous. Bonjour Francis Allais.
Bonjour.
Vous êtes l'auteur de très nombreux ouvrages sur les forêts et les plantes en général que vous avez étudiés, que vous continuez à étudier toute votre vie. En quelques mots, comment vous résumeriez d'abord tous les services que nous rendent les forêts finalement ?
Essentiellement, nous permettent de respirer. Vous savez que l'oxygène dont nous avons besoin, il est produit uniquement par les plantes.
Oui.
Donc sans forêt, on ne respirerait pas.
Alors Francis Allais, on va poursuivre cette conversation ensemble après une petite balade, si vous voulez bien, dans la dernière forêt primaire d'Europe tempérée. Białowieża, c'est le nom de cette forêt, se trouve à 200 km à l'est de Varsovie. Elle est à cheval sur la Pologne et la Biélorussie. Du côté polonais, dans cette immense étendue verte, 140 000 hectares sont protégés par l'UNESCO depuis 2014. Et à l'intérieur de cette aire protégée de la forêt, une petite partie l'est encore plus depuis plus de 40 ans. C'est la réserve intégrale, la forêt primaire de Białowieża. On n'y entre pas comme ça, mais c'est notre jour de chance. Fanny Bouco, notre correspondante en Pologne, nous y emmène. Balade guidée.
Il faut traverser des champs et un bois avant d'arriver à la réserve intégrale. Quelques 5000 hectares de forêt primaire jamais influencés par l'homme. On y entre seulement accompagné par un guide. Ce sera Juan Ferro. Né à Lisbonne, il parle 8 langues et s'est installé à Białowieża il y a quelques années. Tombé amoureux de la forêt lors d'une visite il y a 10 ans, il est le premier étranger à avoir reçu le titre de guide officiel du parc national.
Białowieża, c'est un sanctuaire dans le sens que ici, la nature est préservée dans son potentiel maximum. Ça veut dire qu'il n'a pas dérangement, influence humaine, ce qui fait qu'ici, les règles de vie sont respectées au contraire de la majorité des paysages du monde.
Un sanctuaire matérialisé par une immense porte en bois. Dans une infime partie de cet espace ultra protégé, il existe 3 sentiers de 3, 4 et 6 heures de marche. Interdiction d'en sortir, de cueillir ou ramasser quoi que ce soit, ni de laisser des traces de son passage. Devant moi, une forêt, de très grands arbres, un léger sous-bois, tout y est très vert, rien d'exceptionnel, en apparence seulement.
Une des choses qu'on peut observer ici, qui est une caractéristique typique d'une forêt primaire, c'est la dimension des arbres, par exemple. De tous les 26 espèces d'arbres qu'il y en a, 25 ont l'individu plus grand de l'espèce, en Europe, même un petit peu plus que l'Europe. Cet endroit de Białowieża est la forêt plus haute d'Europe. Et l'arbre plus grand qu'on peut trouver ici à Białowieża a quelque chose comme 65 mètres de taille.
Et c'est un quoi ?
Et c'est un épicéa.
Ici, on compte 200 espèces d'oiseaux, 2000 plantes, 5000 types de champignons et plus de 20 000 espèces d'insectes, ainsi que des mammifères, loups, lynx, élans, castors, et bien sûr, les bisons d'Europe, symbole du parc et principale attraction touristique. Ils ont été réintroduits ici en totale liberté en 1954. Il serait plus de 500 du côté polonais. C'est la dernière grande population de bisons sauvages en Europe. Même si l'animal pèse plus de 600 kg, il n'est pas plus large qu'une vache et se faufile entre les arbres. C'est une vraie partie de cache-cache entre lui et les visiteurs.
En été, je commence ma journée à 2h du matin. C'est la fenêtre de possibilité qu'on a pour voir la vie sauvage. L'été, c'est le plus difficile parce que les femelles ont les bébés, donc ils sont très méfiants et très loin de nous. En hiver, on pourrait trouver des grands groupes concentrés autour d'un alimentateur. Si l'hiver est vraiment dur, j'avais l'occasion cette année de porter des personnes à une tour d'observation proche d'un alimentateur. Il y en a presque une centaine de bisons dans le même endroit.
En cherchant ces fameux bisons, on peut également se faire un peu peur.
Je me rappelle une fois de guider un groupe français aussi, d'administrateurs d'une grande banque commerciale, et qui ont été dans un sentier très spécifique et très dense, et qui, dans un certain moment, seulement à quelques mètres de distance, à 2 ou 3 mètres de distance, deux mâles ont passé jusqu'en face de nous. Il était très rigolo de voir le visage de des administrateurs de cette banque, parce qu'ils étaient légèrement décolorés.
Pas de bison ce jour-là dans la réserve intégrale, mais une quantité astronomique d'insectes. Ils pullulent surtout dans le bois mort qui reste au sol. C'est la règle ici, pas le droit d'y toucher, c'est la mécanique de la nature, comme les dit Juanjo. Pourtant, il y a 3 ans, les dégâts occasionnés sur les arbres par un insecte nécrophage, un coléoptère, avaient servi de prétexte au gouvernement polonais pour ordonner des coupes dans la réserve de Białowieża.
C'est parce que la population d'arbres ne sont pas en bon état de santé. Ça veut dire qu'il va avoir une possibilité pour l'expansion de cet insecte. Donc ça élimine les arbres qui ne sont pas en bonne santé. Ça ne veut pas dire que toute la forêt était affectée. Quelque chose comme 4% des individus étant morts par cet événement. Et 4% est très normal dans une population naturelle.
Le gouvernement a fait couper environ 5000 hectares de forêt sur les 140 000 que compte la réserve de biosphère. Des coupes qui seront visibles durant au moins un siècle selon Juanjo et qui ont été jugées illégales par la Cour de justice de l'Union européenne.
Aucune bois ne peut jamais sortir de la forêt, la réserve de la biosphère. On peut couper en deux situations, qui est pour le bois de réchauffement de la ville, qui vient d'un endroit spécifique qui sont dédiés à ça, et dans le cas de sécurité proche des sentiers ou des routes. Mais le bois devra rester toujours dans le sol. Et ça qui était illégal, parce que le bois était transporté ailleurs de la réserve de la biosphère, il était vendu ailleurs.
Les coupes ont été arrêtées, mais l'UNESCO a mis en garde le gouvernement. S'il recommence, Biao Vieja pourrait perdre son inscription au patrimoine mondial. Or, c'est grâce à cela que les visiteurs affluent dans la région, une activité autrement plus profitable que l'économie forestière.
Maintenant, le tourisme apporte l'immense majorité de l'économie de local. On a 65 personnes qui travaillent dans le service forestier, autour de 65. Mais on a 900 entreprises qui sont directement relationnées avec le tourisme. Une centaine de guides, tous les restaurants, les supermarchés, les hôtels. C'est une question idéologique.
De nouveaux projets de coupe ont été présentés par le gouvernement cette année. 150 000 mètres cubes d'arbres, soit un peu plus de 400 hectares d'ici 2021. Cette fois, ils mettent en avant la sécurité, notamment face aux incendies. Et ces coupes seraient en dehors de la zone protégée par l'UNESCO. Difficile de sortir de la forêt primaire, encore épargnée par les coupes et par l'homme, sans penser à la crise climatique qu'endure la planète.
Ma message, c'est de apprendre quelles sont les règles de la nature. Tous les problèmes qu'on a aujourd'hui du point de vue des relations de notre espèce avec la planète sont parce qu'on ne respecte pas ces règles. On a transformé tellement la planète Terre que des endroits comme ça, qui sont vraiment naturels, sont considérés comme magiques. Non, non, la question c'est que n'a pas magie, c'est le fonctionnement naturel et normal dans le contexte planétaire. C'est ça, c'est la vie.
João Ferro relaie ce message aux touristes qui l'emmènent dans la forêt de Biao Vieja, tout comme les militants écologistes sur place en permanence et prêts à s'opposer à de futures nouvelles coupes. Dans la forêt primaire de Biao Vieja, Fanny Boucaud, Europe 1.
Quelle balade! On respire mieux tout de suite, c'est vrai, et on est toujours en ligne avec notre invité, le grand botaniste Francis Allais. Dites-nous, Francis Allais, vous connaissez évidemment cette forêt. Pourquoi c'est essentiel qu'il y ait comme ça des forêts complètement préservées à l'échelle du temps long, voire très très long?
Parce que les forêts dont nous avons l'habitude, par exemple dans le bassin parisien, je ne veux pas en dire du mal, elles sont belles, mais ce n'est pas des forêts primaires. Ce sont des forêts dégradées, secondaires, appauvries. Alors les forêts primaires, elles ont un double mérite. C'est, comme je le disais, le sommet de la biodiversité. C'est là qu'il y a le plus de plantes et d'animaux et de bactéries et de champignons et tout ce que vous voulez de vivant. Ouais. Et en même temps, c'est le sommet de l'esthétique. Cette forêt de Biao Vieja, j'avais jamais vu en Europe une forêt aussi belle.
Vous avez écrit cette année, Francis Allais, à Emmanuel Macron et au secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, notamment pour plaider pour la création d'une nouvelle forêt primaire en Europe. C'est un projet que vous portez. Ce serait où et comment il faudrait s'y prendre?
Alors, c'est un projet qui débute. On a débuté ça en juin dernier, donc on n'en est pas encore très loin. Mais ça intéresse énormément de monde. Ça ne devrait pas coûter cher parce que, c'est paradoxal, mais il s'agirait justement de ne plus rien faire et de laisser uniquement la nature travailler.
Ça serait où?
On en est là, le choix du terrain. On aimerait que ça soit transfrontalier sur plusieurs pays d'Europe. Je verrais bien quelque chose qui partirait des Ardennes belges, vous voyez, et qui irait en Allemagne, en France du côté des Vosges et du Jura. Et puis en Suisse, et peut-être, peut-être l'Italie du Nord, voilà, quelque chose qui soit vraiment européen. Si ce projet marche, c'est qu'il sera devenu européen.
Vous croyez qu'on est capable de faire ça, de sanctuariser des dizaines de milliers d'hectares qui ne seraient donc plus exploités, et potentiellement pour toujours?
Je vais vous dire, si on n'est pas capable de ça, c'est qu'on est nul. Vous connaissez sûrement la forêt de Pins des Landes dans le sud-ouest. Eh bien, c'est 1 million d'hectares. C'est-à-dire que c'est énorme, c'est gigantesque. Alors, nous sommes capables de planter 1 million d'hectares, mais nous ne serions pas capables de conserver 600 000 hectares. Moi, je trouve que la qualité de l'être humain, elle est en jeu, là.
Il faudrait combien de siècles pour faire revivre une forêt tempérée primaire, comme ça?
Alors, difficile de vous répondre, parce que ça dépend de l'âge de la forêt initiale. Supposez qu'elle ait 200 ans, ça serait déjà très bien. Il nous faudra 8 siècles.
Ok.
Il faut 1000 ans pour faire une... Ça vous fait rire, bien sûr. Mais vous savez que ce n'est pas nous qui sommes responsables de la durée qu'il faut pour faire une forêt primaire en Europe. Dans les tropiques, ça va nettement plus vite, bien sûr, parce que ça fonctionne toute l'année.
Ouais. Ce serait en tout cas un vrai beau projet européen. On marque une pause, Francis Allais, puis on va aller visiter une autre forêt, rencontrer ses défenseurs aussi, en bordure d'une immense ville, Bombay. À tout de suite, restez avec nous.
Europe 1, les carnets du monde.
Et oui, les carnets du monde au cœur des forêts si précieuses pour le climat. Et c'est à Bombay que vous nous emmenez maintenant, Sophie Larmoyer.
On est toujours en ligne avec notre invité, le grand botaniste Francis Allais. Ensemble, on parlait des forêts primaires il y a quelques instants. On va désormais se plonger dans une forêt qui n'est pas primaire, mais qui est une grande étendue verte près de la capitale financière indienne. Vous connaissez, Francis Allais, la forêt d'Arrée?
Je ne la connais pas, mais je connais un petit peu Mumbai. Oui.
Alors, elle est juste en lisière des gratte-ciels de Bombay, de ses 30 millions d'habitants. Elle s'étend sur 1300 hectares et représente une immense réserve de biodiversité, là encore. Et puis, à Arrée vit encore le peuple tribal Adivasi, des indigènes qui vénèrent les arbres centenaires qui y sont. Mais sous la pression foncière, la jungle d'Arrée est aujourd'hui cernée, grignotée de toutes parts. La municipalité a déjà abattu des milliers d'arbres pour construire une troisième ligne de métro. Beaucoup craignent que ce soit un cheval de Troie pour faire entrer d'autres promoteurs dans la zone. Et depuis des mois, des citoyens sont de plus en plus nombreux à se mobiliser pour sauver cet espace vert. Et ça a payé à la faveur d'un renversement d'alliance politique. Le nouveau Premier ministre de la région, de l'État, vient de faire marche arrière. Le tracé du métro sera modifié. Récit de la lutte citoyenne pour cette forêt urbaine avec Combasta.
À l'entrée des 1300 hectares de la forêt d'Arrée, située au milieu de Bombay, les manifestants font face aux policiers. Depuis des mois, ils s'y donnent rendez-vous pour protester contre la déforestation.
C'est ici que la Mumbai Metro Corporation veut construire le terminus d'une ligne de métro. C'est contre cela que nous manifestons. Nous nous rassemblons ici tous les dimanches, nous formons des chaînes humaines, nous protestons contre ce dépôt de train.
Pas loin de la manifestation, dans la forêt, un village est menacé par l'urbanisation de Bombay. J'y rencontre Prakash Bor, un porte-parole des peuples tribaux qui veulent sauver la jungle
d'Arrée.
Je vis ici depuis toujours. Nous, les Adivasi, nous sommes les premiers habitants de ces lieux. Ça fait tellement de générations que nous habitons la forêt que nous en avons perdu la trace.
Là, on voit des buildings qui sont vraiment à quelques dizaines de mètres de votre maison. Est-ce que vous avez peur de devoir déménager prochainement ?
On nous dit souvent que nous serions plus en sécurité dans des grands immeubles modernes comme ceux-ci. Mais ce sont justement d'eux qu'il faut nous protéger. Pour nous, Dieu et la nature ne font qu'un. Nous vénérons les arbres et les différents projets qui ont peu à peu été introduits dans la forêt la détruisent.
Dans leur combat, les peuples tribaux ne sont pas seuls. De nombreux habitants de Bombay s'opposent aussi à la déforestation, comme Nirali Vaidya, une activiste et blogueuse environnementale qui a lancé une pétition rassemblant 700 000 signatures exigeant un autre tracé de la ligne de métro.
Au fil du temps, on construit sur les rivières. Les forêts sont sacrifiées pour des projets de développement. Les collines sont occupées par des bidonvilles et des promoteurs immobiliers. Ma pétition a reçu des soutiens non seulement depuis Bombay, mais depuis toute l'Inde, depuis toute la planète. Personne n'est contre le métro. Bien sûr, les transports publics permettent de limiter les émissions de CO2. Mais comment allons-nous produire l'oxygène que la forêt fournit à la ville ?
Au petit matin, le biologiste spécialiste de la vie sauvage, Anand Pendarkar, nous a donné rendez-vous à l'orée de la forêt pour découvrir l'écosystème qu'elle abrite.
Imaginez que je vous bande les yeux, puis que je vous lâche ici. Est-ce que vous auriez l'idée de construire une zone résidentielle ou des bureaux administratifs ? C'est recouvert de plantes grimpantes, d'herbes et d'arbres. Ces 20 dernières années, nous avons listé 1147 plantes et animaux différents dans cette forêt. Ici, vous pouvez voir les éraflures d'un léopard. C'est comme ça qu'il marque son territoire. À la minute où nous sommes entrés dans la forêt, la température est descendue de 4 à 5 degrés. La verdure et l'humidité régulent la température de la ville. C'est aussi un puits de carbone. Les collines au loin amènent l'eau jusqu'ici durant la saison des pluies et c'est ce qui évite à la ville d'être inondée. Ça tombe donc sous le sens qu'il ne faut pas bétonner cette zone éponge.
En dehors de la forêt, la bataille pour Arrée se joue aussi sur le terrain juridique. Fondatrice du groupe Save Arrée, la militante Amrita Bhattacharjee a porté plainte avec d'autres auprès de la Cour suprême indienne qui vient de décréter un moratoire sur la déforestation jusqu'en décembre.
À chaque fois qu'un tel projet d'infrastructure apparaît quelque part, on voit de grands projets immobiliers se développer. Et on dirait bien que c'est le plan ici aussi. À la base, ils répétaient que c'était juste un dépôt de train, mais on a appris qu'il y aurait finalement une station de métro dans la forêt. Or, il n'y a pas tellement de gens qui vivent ici, il n'y a donc aucun besoin d'une station de métro.
À moins de vouloir justement développer la zone.
Exactement, c'est clair qu'il doit y avoir des intentions de développement futur.
Inquiète de pouvoir encore habiter Bombay dans 20 ans, la nouvelle génération est en première ligne pour défendre la forêt. C'est le cas de Yutika qui, à 18 ans, n'a pas hésité à s'opposer au bulldozer et terminer au poste de police.
J'ai été placée en détention. Je ne m'étais jamais sentie aussi démunie de toute ma vie. La police ne m'a pas très bien traitée. Est-ce que c'est mal de demander de respirer un air sain ? Est-ce ma faute si moi et ma petite sœur qui n'a même pas encore vu ce monde allons attraper des maladies respiratoires ?
À 20 ans, Ishpriya Kaur a lancé un groupe étudiant baptisé Combat pour un avenir juste.
Le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat a publié un rapport et nous a mis en garde. Mumbai est une ville côtière très proche du niveau de la mer. Il est prévu que la ville soit inondée et complètement détruite d'ici 2050. C'est donc positif qu'il y ait eu ce mouvement autour d'arrêt, car ça a permis à la jeunesse de s'instruire sur tout cela.
Une jeunesse mieux informée et une bataille remportée cette semaine, avec la fin des travaux du métro et la recherche d'un nouveau tracé. Les militants ont célébré cette décision, mais tous restent vigilants. Les projets de zoo, de réhabilitation de villages et de gratte-ciel sont toujours d'actualité dans la forêt de Bombay. Le combat entre la jungle urbaine et la jungle d'arrêt ne fait sans doute que commencer. Entre Bombay et la forêt d'arrêt, Combastin, Europe 1.
Voilà, une autre bonne nouvelle, hein. Toutes les poursuites judiciaires contre les citoyens qui avaient été arrêtés ces dernières semaines ont également été levées. Francis Allais, vous êtes toujours en ligne avec nous, vous avez entendu ce reportage. Est-ce que ça vous inquiète de constater que beaucoup n'ont pas compris qu'il fallait arrêter de rogner sur les forêts ou est-ce que ça vous rassure de voir que des citoyens se mobilisent de plus en plus souvent pour les protéger ?
D'abord, ce n'est pas une situation facile. Une énorme ville en pleine expansion, ouais, avec une forêt juste à côté, on est vraiment dans la situation la plus délicate. Maintenant, il y a une vraie raison d'optimisme, et je constate que c'est le cas à Bombay, c'est que les citoyens, maintenant, ils sont tellement attachés à leurs arbres qu'ils sont prêts à se battre pour le maintien de la forêt. Et ça, c'est relativement nouveau. On n'aurait pas dit ça il y a 20 ans.
Vous le constatez, hein, cet intérêt nouveau et très fort pour la forêt.
Complètement, même ici, là où j'habite.
Ouais, et quand vous faites des conférences, ça fait ça le comble. Il y a de plus en plus de livres qui sortent sur les forêts, sur les plantes, qui ont des succès, qui sont des vrais succès d'édition.
On est dans une période extrêmement favorable pour assister au progrès des connaissances sur les plantes.
La tâche est immense hein, quand on voit par ailleurs ce qui se passe en Amazonie, par exemple, ces derniers mois.
Oui, ça c'est répugnant. Je trouve ça répugnant. Ce gouvernement brésilien, il se couvre de honte. Pas seulement vis-à-vis de nous, mais vis-à-vis des Brésiliens qui habitent ces forêts. Les ethnies amérindiennes sont terriblement visées. Et quand je vois que les régions où j'ai travaillé sont maintenant complètement calcinées, ça me dégoûte.
Voilà. Ouais, vous avez beaucoup travaillé grâce à ce radeau des cimes que vous avez imaginé, hein, comme une plateforme très légère posée au-dessus des arbres sur les canopées et sur lesquelles vous avez mené beaucoup de vos études ces dernières décennies.
C'est vrai, oui.
Pourquoi, Francis Allais, malgré l'urgence qu'on connaît et qu'on voit maintenant, qu'on personne ne peut ignorer, pourquoi ces coupes sombres et ces démarches-là ne tombent pas sous le coup de la loi ?
Il faudrait, mais on en est très loin au Brésil. C'est réprouvé par la population, mais ça n'est pas encore juridiquement considéré comme un délit.
Il faudrait qu'il y ait un délit d'écocide, c'est ça ?
Écocide, c'est ça, exactement. Écocide et aussi génocide, parce que les populations forestières sont là, et si on leur retire leur forêt, elles disparaissent, elles ne peuvent pas survivre autrement.
Ouais, on avait reçu l'an dernier dans les Carnets du Monde la cacique Tanoné, une chef d'une tribu d'Amazonie qui nous avait expliqué tout ça. Merci beaucoup Francis Allais d'avoir partagé avec nous votre passion et votre connaissance des forêts. Aujourd'hui, je cite deux de vos nombreux livres sur le sujet, Mais d'où viennent les plantes, c'est le tout dernier, et puis Plaidoyer pour l'arbre. Tout ça publié chez Actes Sud. Et puis je précise que vous dessinez en permanence les arbres, les végétaux. C'est magnifique. Et on peut voir vos carnets en ce moment à la Fondation Cartier à Paris. dans une très belle exposition qui a été prolongée jusqu'au 5 janvier et qui nous interpelle avec ce titre « Nous, les arbres ». Merci beaucoup. Arbres. Merci Francis Allais.
Je vous en prie. Bonne journée.
Portez-vous bien. Dans quelques instants, une nouvelle balade, mais cette fois du côté de l'Autistan. Ce sera avec Joseph Chovanec.
Les carnets du monde sur Europe 1. Europe 1, les carnets du monde.
C'est la dernière étape, Sophie Larmoyer. Avant de se quitter, on fait un tour en Autistan avec Joseph Chovanec.
Entre deux trains, valise au bout du bras, Joseph nous a rejoint. Bonjour Joseph.
Bonjour Sophie, bonjour à tout le monde.
Vos voyages nourrissent ces réflexions que vous partagez depuis des années avec nous sur Europe 1. Vos voyages et les rencontres que vous y faites, qui sont parfois rares, avec des gens coupés de notre monde agité.
Oui Sophie, des ermites. Mais quand on entend le mot ermite, quelque chose d'extrêmement archaïque s'en dégage. Difficile d'imaginer qu'il puisse y avoir à notre époque hyper connectée des ermites à l'ancienne. Et je l'avoue, pendant mon enfance, je n'en ai pas vraiment rencontré. Pourtant, j'ai passé du temps dans les hautes montagnes du Valais en Suisse avec mes parents. Et on avait tout au plus croisé un vieillard qui vivait seul avec des chèvres au milieu de nulle part et ne parlait pas beaucoup. On l'appelait le vieux aux chèvres, un personnage digne de Heidi. Je me souviens vaguement qu'une fois, il m'avait fait entrer dans son chalet. C'était sombre, il y avait beaucoup de mouches et de fromages. Oh, j'avais horreur des fromages pendant mon enfance, donc le coup de cœur ne s'est pas produit.
Pourtant, si vous nous parlez des ermites aujourd'hui, Joseph, c'est que vous en avez bien rencontré.
Oui, mais il a fallu attendre pour cela. Par exemple, mes séjours linguistiques au Caire. Alors, le Caire, c'est certes une des villes les plus surencombrées et remuantes au monde. Mais il y a là le fabuleux musée copte. On peut y voir comment la culture copte a été lentement construite par des ermites bizarres au fin fond du désert. Ce fut un émerveillement pour moi, le début d'incursion dans le désert égypto-soudanais sur leurs traces. Car tel est le défi. Pour en savoir plus sur les ermites, il faut aller au bon endroit. Ce n'est ni au centre-ville, ni sur les réseaux sociaux que l'on en trouve. Le mieux, c'est de discuter avec les vieux dans les lieux reculés et leur demander s'ils connaissent des gens bizarres dans les parages.
Alors, où avez-vous questionné les anciens comme ça? Où avez-vous trouvé des ermites, finalement?
J'ai appliqué la méthode, par exemple, en Nouvelle-Calédonie. Ouais. Là-bas, si on accepte la capitale, donc Nouméa, le reste du pays est fait de 1000 rumeurs. On les raconte avec une pointe d'angoisse dans la voix. On dit que dans tel coin reculé, il se serait passé ceci ou cela. Là, qu'il y aurait tel personnage bizarre. Et à la pointe nord-est, la plus sauvage de la Nouvelle-Calédonie, au lieu du Pueblo, il y en a un certain nombre de ces gens. Ce sont pour la plupart des anciens gendarmes ou soldats français qui ont eu une vie agitée, pour certains dans les forces spéciales d'ailleurs. Et maintenant, ils fuient tout contact humain, vivent en autarcie entre chasse et cueillette.
Ceux-là ne doivent pas être tout à fait d'accord pour que vous leur rendiez une petite visite.
Et non, Sophie, ça c'est certain. Mais de façon tout à fait exceptionnelle, il y a des ermites qui viennent à nous. C'est ce qui m'est arrivé l'autre jour. J'étais à Saint-Maurice en Suisse à une conférence. Je séjournais dans une hôtellerie monastique et j'étais très intimidé de me retrouver au moment des repas au milieu d'une foule que je ne connaissais pas. Donc je m'étais mis dans un petit coin discret de table et à côté de moi, évidemment, une place vide. Arrive alors un vieillard pieds nus, en sandales, malgré le froid glacial. Il murmure « Est-ce qu'il peut s'y asseoir ?» Donc il se présente comme Nicolas et le contact a très vite été établi. Nous avons passé une bonne partie de la journée ensemble. Il m'a montré une grotte dans la montagne où il a vécu pendant des années dans la solitude complète et je crois comprendre qu'il y retourne de temps à autre. Il m'a expliqué comment il s'y chauffait au bois, en hiver, vivant de ce qu'on voulait bien lui apporter, autant dire rien le plus souvent. Une vie à l'écart du monde? Non, pas tout à fait.
Non, parce qu'il a finalement une histoire assez folle, ce Nicolas. Hein.
Voilà, tout à fait, Sophie. Et au fil des discussions, il m'en a raconté beaucoup. Il a vécu à Calcutta, il avait donc bien connu Mère Teresa, dont il fut le chauffeur, ou encore Sœur Emmanuel. Le soir venu, à un moment donné, après m'avoir beaucoup raconté d'anecdotes, il s'est levé, m'a remercié et il s'en fut. Un peu sous le choc, j'ai voulu en savoir davantage sur lui. Donc, à Saint-Maurice, là-bas, tout le monde ou presque le connaît. Il se raconte que Nicolas serait invité régulièrement régulièrement au TPI de l'AE en tant que médiateur entre USA et Iran, par exemple, avant de regagner sa solitude glacée des montagnes. Oui, c'est un éminent personnage. Mais n'importe les détails, il y a des rencontres que l'on n'oublie pas. Et les rares fois où on entreaperçoit l'univers parallèle des ermites, eh bien, elles font assurément partie des rencontres les plus saisissantes.
Merci d'avoir partagé celle-ci avec nous, Joseph. Vous nous avez donné envie de le rencontrer à notre tour, votre ami Nicolas. Oui. Merci, à dimanche prochain.
Merci, à très bientôt.
Merci d'avoir vadrouillé avec nous. Aujourd'hui, on referme les carnets du monde, le podcast. Et là, si vous voulez réécouter tous ces grands reportages qu'on vous a proposés aujourd'hui, merci à l'équipe des carnets, Marc Fréjean à la réalisation, Florence Gimalak qui m'a aidé à préparer l'émission. Et dans quelques instants, on ouvre plein d'autres livres avec vous, Nicolas Carreau. Quel est le programme?
Alors, on va se faire peur d'abord avec Maxime Chattam et son nouveau roman Insectes, sa grouille de bestioles. Ah. Et ensuite, on se fera plaisir avec le camarade Laurent Mariotte. J'ai visité sa bibliothèque et sa cuisine, évidemment. Et il y a des livres dans sa cuisine.
La Voix est libre, c'est dans quelques minutes. Merci, Nicolas. Et nous, on vous prépare d'autres belles aventures pour la semaine prochaine. Portez-vous bien.